sommes dans le dernier mois, avant les vacances d'été.
On ne t'entend pas, là.
J'ai pas le micro. Bonjour.
Nous chanterons le temps des cerises. Et...
Bonjour, à nouveau. Donc, nous sommes dans le dernier mois avant les vacances d'été. Une nouvelle fois, le gouvernement utilise les institutions de la Ve République pour imposer à une population qui n'en veut pas d'être soumise 2 ans de plus de sa vie à l'exploitation capitaliste. Pour les jeunes, c'est l'embrigadement par le CNU. On nous annonce aussi la venue du pape à Marseille. Aujourd'hui, la Libre Pensée vous propose d'explorer ces deux sujets. Sont au micro Claudette Coudeauville, Michel Garin, Henri Huil et moi-même Michel Cadouche. Michel, s'il te plaît, fais-nous le point sur le CNU.
Tape à la vitre. Tape à la vitre.
On t'entend pas.
Ne vous impatientez pas, nous allons entendre Michel. Il y a une petite réparation de micro qui s'impose.
Là, là, on m'entend ? Voilà. Ce sont les inconvénients un peu du direct. Voilà. Alors, on me demandait de parler du SNU. Alors, le SNU, qu'est-ce que c'est le SNU ? Le SNU, qui veut dire en définitive Service National Universel, c'est un peu une obsession, je dirais un peu le joujou d'Emmanuel Macron et de son entourage. Ça dure depuis sa campagne présidentielle de 2017. Il parlait alors d'un service national de courte durée, obligatoire et universel. La préfiguration de ce qui est maintenant le SNU s'est construite sur les propositions d'un groupe de travail présidé par un militaire, général de brigade, et les travaux d'une mission d'information de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées de l'Assemblée nationale. Alors le SNU consiste en quoi ? Le service national universel consiste à imposer actuellement à des adolescents et des adolescentes dont les parents sont volontaires, puis à terme à l'ensemble d'une classe d'âge, filles et garçons de 15 à 17 ans, l'obligation d'accomplir en premier lieu un séjour dit de cohésion de 2 semaines, hébergé loin de chez eux en internat, encadré par du personnel civil, mais surtout militaire. Ils vont vivre ensemble en compagnie d'une centaine de jeunes répartis en maisonnées d'une dizaine. À l'emploi du temps, la levée des couleurs et la Marseillaise chaque matin, en uniforme, des activités collectives matin et après-midi qui peuvent être du sport ou des cours de l'éducation routière, la santé, les métiers des armées ou sur des orientations différentes. En fin de journée, un temps libre et un temps de démocratie interne. En 2020, la plupart des compagnies étaient installées dans des lycées. Cette année, calendrier et nombre de jeunes obligent, les hébergements devraient être plus différenciés. En second lieu, dans l'année qui suit le séjour de cohésion, une mission d'intérêt général d'une durée équivalente de 84 heures hors temps scolaire, dans une structure près de chez eux, dans le domaine de leur choix, solidarité, santé, éducation, défense, environnement, sport, etc. Puis, à terme, un engagement volontaire qui constitue la finalité du SNU. Elle est facultative et peut être effectuée de l'âge de 16 à 25 ans. Ils sont incités à s'engager ultérieurement dans des missions d'intérêt général de 3 à 12 mois avant leur 25e anniversaire, notamment dans les domaines de la défense et de la sécurité, de la préservation du patrimoine et de l'environnement ou de l'aide à la personne. À cette fin, le SNU est notamment articulé avec les dispositifs du service civique. Les jeunes du SNU font également l'objet de sollicitations appuyées de la part des sergents recruteurs des armées. En 2018, le gouvernement promettait « Le nouveau SNU doit favoriser la participation et l'engagement de chaque jeune dans la vie de la nation, valoriser la citoyenneté et le sentiment d'appartenance à une communauté rassemblée autour de ses valeurs, de renforcer la cohésion sociale et de dynamiser le creuset républicain. Le SNU sera un moment dans la vie du citoyen qui lui permettra de partager l'expérience d'une communauté d'âge et de la mixité sociale et de découvrir les différentes formes d'engagement possibles. » C'est toujours cette rhétorique qui est utilisée. Pourtant, le SNU, alors qu'il devait devenir universel et obligatoire dès 2021, n'a jamais réussi à trouver les effectifs annoncés. En 2020, le gouvernement avait prévu 30 000 volontaires. Finalement, il n'y en a eu que 2 000. En 2021, 25 000 de prévus, finalement seulement 15 000 et des poussières, 15 652. En 2022, il en a annoncé 50 000, finalement seulement 32 000. Et en 2023, il en a annoncé que 64 000. Combien y en aura-t-il? On le verra à la fin de l'année. Alors le SNU, dans les faits, c'est quoi? Une opération de soumission de la jeunesse. Il s'agit d'inculquer dans un esprit d'obéissance aux règles, au respect absolu des normes. Règles et normes qui, pour la plupart, ne visent qu'à perpétuer les inégalités et injustices inhérentes à l'organisation actuelle de la société. Cette volonté de soumission passe aussi par un contrôle renforcé, notamment à travers les mises en fiche de toutes et de tous les jeunes de 16 à 25 ans. Volonté de soumission, enfin, car elle ne reconnaît comme engagement des jeunes que les dispositifs étatiques. La remise en droit des travailleurs et des travailleuses. Les jeunes seront utilisés pour remplacer les emplois aujourd'hui occupés par des employés qui ont un salaire, une convention collective et un statut. La possibilité de s'organiser syndicalement et des droits individuels et collectifs. Avec le SNU, chaque année, 800 000 jeunes seront exploités sans aucun de ces droits pour des durées variables. Ils et elles seront très vivement encouragés à poursuivre leur engagement volontaire par un service civique dans les mêmes conditions de précarité. Alors, quel retour d'expérience on a du SNU dans les faits? La mixité sociale promise n'est pas là. En 2020, l'INJEP a publié un rapport d'évaluation. L'objectif de mixité sociale, mis en avant par le gouvernement en référence au service militaire, n'est pas atteint. Le rapport note, je cite, « une surreprésentation des enfants de militaires, un tiers des jeunes, les familles des volontaires plutôt à l'aise financièrement, un engagement plus important des parents des volontaires du SNI que la moyenne française, une majorité de volontaires venant des filières générales et technologiques et des volontaires SNU meilleurs élèves que la moyenne ». Ensuite, l'engagement inférieur à celui des lycéens. L'autre objectif d'engagement des jeunes est-il atteint? Quand on regarde le rapport de 2020, on voit que les lycéens, élèves de terminale, sont plus engagés que les jeunes du SNU. Ils militent plus dans des associations humanitaires, des associations religieuses ou politiques. Et la majorité des jeunes du SNU ne voient dans l'engagement que la défense et la sécurité, 63%. Le sport vient en seconde place, 42%. L'engagement pour la solidarité et la démocratie n'intéresse que 6% des jeunes, un comble. Celui en faveur des personnes âgées, du handicap et du développement international oscille entre 10 et 20%. On voit qu'en définitive, ça n'apporte rien à ce niveau-là. Ensuite, quel problème? Un encadrement qui pose problème. Ce n'est pas sans lien avec l'encadrement. Le secrétaire d'État parle de mélange de trois cultures, celle de l'éducation nationale, d'où vient une grande part des cadres, de l'armée et de l'éducation populaire. Le rapport de 2020 montre que la première motivation des encadrants était la rémunération, ces postes étant payés très au-dessus des emplois équivalents. L'autre motivation, c'était de renouer avec l'armée, des encadrants non militaires étant souvent réservistes. Interrogée sur la formation des encadrants, on apprend qu'elle s'est faite pour l'essentiel à distance, à travers des modules produits par les ministères, avec notamment un module des armées sur l'autorité, un autre de l'intérieur sur la radicalisation, une intervention du Conseil des sages de la laïcité. L'orientation sécuritaire est bien là dans la formation donnée aux cadres et ensuite aux jeunes. Ensuite, quel problème ? Un assemblage hétéroclite. Éric Fay, qui est l'ancien président de la Ligue de l'enseignement, qui est une grande voix de l'éducation populaire, parle du SNU comme, je cite, « d'un dispositif dans lequel les mouvements d'éducation populaire prennent le risque de s'abîmer ». Il ajoute « le cadre de déroulement du séjour de cohésion est très fortement teinté de dimension militaire, sans doute approprié pour une préparation de l'esprit de défense et aux métiers militaires, mais qui n'ont rien à voir avec la pédagogie active, et encore moins avec les pratiques éducatives de l'éducation populaire destinées à traduire dans les actes éducatifs la dimension fondamentale d'une éducation émancipatrice. La jeunesse mérite bien mieux que cet assemblage hétéroclite, incohérent, irréaliste et surtout douteux du point de vue de ses intentions éducatives, formatrices, politiques, culturelles et sociales qu'est le SNU. Ensuite, il y a un rapport de la Commission des finances du Sénat qui est sorti il y a 2 mois à peine. Si l'on se fonde, qui détermine que si l'on se fonde sur le coût par jeune prévu en 2023, qui est de 2 187,5 € par jeune, donc, on obtient un coût total du SNU généralisé à 1,75 milliard d'euros. Toutefois, les chiffrages qui s'appuient seulement sur les expérimentations ne permettent pas d'avoir une vision claire du côté SNU généralisé à l'ensemble d'une classe d'âge. Un rapport des inspections générales remis au Premier ministre au printemps 2018 qui chiffrait le coût par an du SNU généralisé à l'ensemble d'une classe d'âge de 22, il est chiffré entre 2004 et 3,1 milliards d'euros par an. Ce coût semble plus proche du coût réel qu'aura le SNU. Pour toutes ces raisons et bien d'autres décrites dans le rapport, le rapporteur spécial propose de surseoir le projet de généraliser le séjour de cohésion à l'ensemble d'une classe d'âge. Cette suspension devra permettre de lever des incertitudes et d'obtenir plus d'informations sur la généralisation du service national universel. En conclusion, on pourrait dire que dépourvu des bases légales, le SNU procède d'une exploration autoritaire. Au-delà des sommes déjà dépensées inutilement depuis son lancement, s'il devient obligatoire ou s'il parvient à se développer, il absorbera à terme des ressources extrêmement importantes au détriment de l'instruction publique et de la dissatisfaction des besoins fondamentaux de la jeunesse. Sa généralisation à tous les jeunes, je vous rappelle que c'est normalement 800 000 jeunes qui sont concernés, est maintenant repoussée à une date indéterminée. Les évaluations montrent que le dispositif ne plaît qu'à une petite frange de la population. La promesse du candidat Macron est, on peut le dire, désenchantée. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé justement pour qu'on puisse lutter contre cet embrigadement de la jeunesse ? Alors, il y a eu plusieurs manœuvres. Hein. Il y a eu plusieurs actions, je dirais. Il y a plus particulièrement, il a été prévu de mettre une caravane qui devait parcourir la France. Et cette caravane a fini, je dirais, dernièrement à Toulon. Mais avant d'être à Toulon, après Nantes, Paris, Lyon et Lille, et toutes les villes parcourues par la caravane du SNU, hein, ce sont surtout des jeunes qui sont empêchés, la caravane du SNU, de se tenir. Alors à Toulon, par exemple, nous étions à Toulon, c'était samedi dernier, c'est pas compliqué. La quasi-totalité des organisations syndicales étaient présentes, ainsi que des organisations démocratiques comme la Libre Pensée, comme nous, bien entendu. On a constaté que sur la place d'Armes a été le théâtre d'une scène stupéfiante. D'un côté, le village, destiné à chanter les louanges du dispositif vide de visiteurs. Pendant 3 heures où on était présent sur la place, il y a eu peut-être, je crois, 2 familles qui sont venues pour présenter leurs gamins. De l'autre, une foule de manifestants informés du lieu au dernier moment. Parce que, bien entendu, pour éviter les problèmes, le lieu et l'heure de cette caravane étaient précisés au dernier moment. On l'a su 24 heures ou 48 heures avant. Voilà. Donc, on peut dire que tout le monde a visité, en tournant autour de la caravane, en chantant et en criant leur hostilité dans un joyeux concert de casseroles et de vide et de tambours. Au regard des moyens déployés par l'État, organisateurs, présence policière, hein, la présence policière n'était pas énorme, hein, ils n'étaient pas habillés en Robocop, il y avait 5 policiers. Bon, on a même constaté qu'il y en avait 3, ils n'étaient vraiment pas contents que l'on soit là. Si on leur avait donné l'ordre de nous charger, faites-nous confiance qu'ils auraient mis le casque avec joie. Donc, ce qui fait que ça s'est quand même bien passé dans l'ensemble. Alors, il faut constater quand même qu'ils ont réussi à faire parvenir sur le stand une équipe des jeunes du SNU. Ils étaient à peu près une quinzaine, habillés avec l'uniforme des SNU, qui était donc prévu normalement de chanter et puis de vanter les mérites du SNU. Mais ça ne s'est pas passé comme ils voulaient. Et je dirais même, contrairement à ce qu'ils voulaient, il n'y a rien eu du tout. C'est-à-dire que ces jeunes sont restés enfermés dans les barrières avec un garde-chourne qui n'était pas très content de nous voir également avec nos casseroles. Et voilà comment ça s'est passé. Alors, je dirais que pour l'instant, qu'est-ce qu'il y a ? On dirait que toute cette caravane pour le SNU, en définitive, ça a été un festival de flop. Hein. Partout, absolument partout. Alors, on peut dire que ça a été une journée record et on pourra dire que l'on continuera à combattre le SNU autant que pourra, partout où il faudra, même dans les lycées, parce qu'on sait très bien que ces campagnes sont menées également dans les lycées. Ils n'hésitent pas à faire venir des jeunes qui ont fait le SNU pour vanter les mérites du SNU. Voilà. Donc, c'est important. Je pense qu'il est important que tout le monde se mobilise, les syndicats, les partis, les associations, parce que ça, c'est un embrigadement de notre jeunesse et on ne peut pas laisser cet embrigadement de notre jeunesse. Voilà ce que j'avais à dire.
Merci, Michel. Je pense que tu vas nous passer une chanson appropriée.
Merci, Michel. Je pense que tu vas nous passer une chanson appropriée.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Oui, voilà. Alors, cette chanson, là, excusez-moi, mais j'avais un problème de micro avant. C'est que Le Déserteur, je voulais dire que Le Déserteur est une chanson écrite par Boris Vian en février, lors de la guerre d'Indochine, composée par Harold Bedberg, est enregistrée sous forme définitive la très suivante. Voilà, donc on va laisser la parole à notre ami Michel.
Oui, d'ailleurs, je sais qu'il existe une autre fin, c'est que moi j'aurai une arme et que je vais tirer. Mais voilà. Donc, sinon, j'en ai parlé tout à l'heure, on nous annonce la venue du pape à Marseille pour le mois de septembre. On nous parle très facilement dans les médias de la venue d'un chef d'État. Mais à quelle réalité a-t-on affaire, Henri ?
Je vais essayer de m'efforcer de répondre à cette question, mais d'abord, je crois qu'il n'est pas inutile de préciser qu'on nous parle de la venue du pape à Marseille à l'invitation de M. Benoît Payan, qui est le maire de Marseille. Sauf erreur de ma part, c'est un détail qui a son importance pour la suite des événements. Alors, la question se pose, le pape viendrait à Marseille célébrer une messe et différentes autres festivités. Je vais déjà commencer par enfoncer une porte ouverte. Alors, dire ça ne sert à rien d'enfoncer les portes ouvertes. Si, en l'occurrence, parce qu'on vit dans une époque où on peut très bien vous montrer une sardine et vous expliquer que c'est un lapin. On vit une époque qui est comme ça. Donc, il faut revenir à quelques réalités fondamentales. La première est la suivante. Tout le monde sait que le pape est le chef de l'Église catholique. Et toutes ces histoires de « on reçoit un chef d'État », c'est pour essayer de nous faire oublier cet aspect des choses, parce que s'il s'agit d'un chef d'une religion, en l'occurrence la religion catholique, la République ne permet pas qu'on la subventionne. Alors que si c'est un chef d'État, la discussion serait tout autre. Donc sans revenir davantage sur la question du financement que Claudette abordera bien sûr en détail, je pensais qu'il était important d'enfoncer cette porte ouverte. Le pape est le chef de l'Église catholique. Alors pourquoi nous dit-on que c'est le chef d'État du Vatican ? Alors tout d'abord, il faut revenir sur qu'est-ce que c'est que le Vatican en réalité ? Le Vatican, il a une réalité, c'est 44 hectares, c'est un petit quartier au sein de la ville de Rome. Ces 44 hectares sont composés essentiellement de... c'est composé essentiellement de la place Saint-Pierre, de la basilique Saint-Pierre, du palais du Vatican et des jardins du palais du Vatican, plus quelques autres bâtiments de moindre importance et de moindre prestige. Mais voilà, ça c'est la réalité, je dirais, territoriale. Ensuite, d'où vient, ça a une histoire également, ce Vatican, d'où vient le fait qu'on nous parle d'un État ? Alors il faut remonter, je crois, à 1870. Je ne vous ferai pas toute l'histoire détaillée, on va aller vite. En 1870, le combat est engagé pour, d'un côté, ceux qui gèrent une Italie, qui gouvernent une Italie morcelée en une multitude de micro-États, en quelque sorte, avec au centre de la péninsule les États pontificaux, les États du pape, à ce moment-là, et le nord-est de l'Italie, qui est occupé par l'Autriche. Et donc il y a une guerre qui est menée par le royaume de Piémont-Sardaigne, de la dynastie des Savoies, le roi Victor Emmanuel de Savoie, disait-on. C'est la famille royale à l'époque qui combat pour l'unification de l'Italie et qui a pour allié les révolutionnaires républicains de Garibaldi, ce qu'on appelait les chemises rouges, ce qui donnait une idée de leur orientation politique. Ce n'était pas franchement des monarchistes, le fait d'arborer, de combattre en chemise rouge de Garibaldi. Et en 1870, ils prennent Rome et ils dépossèdent le pape de ses états pontificaux. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de comment ils ont occupé, disloqué l'ensemble des micro-États, des principautés qui divisaient l'Italie. Mais enfin, ils réalisent ce qu'on appelle l'unité italienne. Et à partir de là, il y a un contentieux entre le pape, c'est-à-dire le Saint-Siège, qui est l'endroit où siège l'Église catholique, là où elle se rassemble, là où il y a ses institutions, ses ministères et tout ça, et l'État italien, la monarchie italienne. Ça, on appelle ça à l'époque la question romaine. Et cette situation va perdurer pendant tout de 1870 jusqu'en 1929. Et 1929, c'est un dictateur fasciste qui est au pouvoir en Italie. D'ailleurs, il est dictateur fasciste, mais il est juridiquement, c'est le président du conseil du gouvernement du roi. L'Italie est une monarchie encore à ce moment-là. Et Mussolini est appelé au pouvoir par le roi de la dynastie de Savoie. Et il se trouve dans une situation, comme tout dictateur fasciste et quelques autres, il n'aime pas avoir affaire à une opposition. Il n'aime pas avoir affaire à des contradicteurs. Et donc Mussolini, qui soutiendra, qui sera l'allié du dictateur national catholique Salazar au Portugal, du dictateur national catholique Franco en Espagne un peu plus tard, qui sera l'allié, on l'a vu pendant la Seconde Guerre mondiale, de Adolf Hitler, Mussolini va chercher à régler ce contentieux avec l'Église catholique pour ne pas avoir une espèce de front d'opposition intérieur. Et c'est la raison pour laquelle ils vont signer ce qu'on appelle un concordat, un traité, des accords. Disons des accords, qui ont plusieurs volets, qui a un volet financier, c'est-à-dire qu'on va donner de l'argent de l'État italien, beaucoup, beaucoup d'argent, nous parlons, en milliards de lire de l'époque, qui vont être versés, alors, non pas aux caisses du Vatican, mais dans les caisses du Saint-Siège, c'est-à-dire dans les caisses de l'Église catholique, c'est pas un État, dans les caisses, le Saint-Siège, dans les caisses du Saint-Siège, donc à sa tête, à le pape. Voilà. Le deuxième volet, c'est un volet territorial. Mussolini va concéder 44 hectares, je l'ai dit, d'un quartier du Vatican, qui est un quartier de Rome. Et ensuite, il y aura un concordat purement religieux qui va venir compléter cet ensemble de traités. Et ce concordat purement religieux prévoit qu'il n'y a qu'une seule religion légale en Italie à cette époque, c'est la religion catholique. On voit que ce n'est absolument pas l'affaire d'un État de décider. Voilà. C'est une négociation de puissance à puissance, en quelque sorte, entre une dictature fasciste, qui a la forme d'une monarchie, et le Saint-Siège, d'autre part, avec à sa tête le pape Pie XI, pour les puristes. Pie XI, c'est l'immédiat prédécesseur de Pie XII. Pie XII, il en est beaucoup question dans le fameux film Le Vicaire, qu'on a vu il y a peu de temps encore à la télévision. Et donc, la situation est celle-là, c'est-à-dire on solde un vieux contentieux historique, un vieux problème de politique intérieure, en donnant une surface de terrain pour dire c'est un État, en donnant beaucoup d'argent, énormément d'argent au Saint-Siège, et en lui reconnaissant une place privilégiée, une place dominante, une place exclusive, en fait, au sein de la monarchie. C'est à un point tel que, par exemple, le baptême tient lieu d'acte de naissance, que le mariage à l'église tient lieu d'acte de mariage civil, etc., etc. C'est un système qu'on retrouvera, par exemple, dans l'Espagne de Franco, quelques années plus tard. Voilà. Et donc, cette situation, pour bien faire comprendre de quoi il s'agit, je vais faire deux citations rapides. Le pape, au moment de signer ces traités, dit « Il est clair pour tous, nous l'espérons, que le souverain pontife, c'est-à-dire il parle de lui-même, le pape il dit « le souverain pontife » en parlant de lui-même, n'a vraiment que cette portion de territoire matériel indispensable pour l'exercice d'un pouvoir spirituel confié à des hommes pour le bénéfice des hommes. » Toute littérature mise à part, l'exercice d'un pouvoir spirituel. Il parle, même le pape qui signe les traités du Latran n'a pas la prétention d'avoir constitué un État. Il dit que c'est une surface matérielle pour un pouvoir spirituel, le pouvoir spirituel d'une religion. D'ailleurs, il parle de lui-même en disant le souverain pontife. C'est le titre que l'Église catholique donne au pape. Donc nous n'avons pas là affaire à un État. Et bon, pour gagner du temps, je ne vais pas faire la citation de Mussolini, qui n'est pas un personnage intéressant au demeurant. Voilà. Et donc, on est dans cette situation où, historiquement, on a la démonstration que c'est un accord passé entre une religion et un État fasciste, en l'occurrence, qui donne naissance à ce qu'on ose appeler aujourd'hui, à nous présenter comme l'État du Vatican. Alors on nous dit « Ah oui, mais on a un argument très fort, c'est que, voyez-vous, le Vatican est reconnu comme un État à l'ONU. » Eh oui, ben, sauf que c'est pas vrai. Sauf que c'est pas vrai. Non, on nous dit ça. Il y a des tas de gens qui nous disent ça. J'imagine qu'on va voir dans la presse bientôt ceux qui ont invité ou ceux qui approuvent l'invitation du pape à Marseille. On nous expliquait que c'est un État reconnu par l'ONU. Ben non, c'est pas vrai. Le Vatican n'est pas membre de l'ONU. C'est pas très compliqué. Il suffit d'aller sur le site internet de l'ONU ou sur le site internet du Vatican, parce qu'ils en ont un. C'est d'ailleurs le site internet du Saint-Siège, pour dire les choses. C'est le Saint-Siège, c'est-à-dire l'Église catholique, qui a un statut d'observateur et pas un statut d'État membre. Alors, si c'était un État, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas un statut d'État ? Ben justement, il a un statut d'observateur parce que, comme ce n'est pas un État, il ne peut pas être admis comme un État à l'ONU. Voilà, c'est des points qui me paraissaient extrêmement importants à rappeler. Et ça démontre bien ce que j'ai dit. On peut vous montrer une sardine et vous dire que c'est un lapin. Il reste que ce n'est quand même pas la vérité. Voilà.
Bien, merci.
Excusez-moi. Excusez-moi, je suis un peu... mais quand même, je vais prendre le contraire de ma démonstration, qui... à mon avis, est une démonstration irréfutable. Ce que j'ai dit de 1870, ce que j'ai dit de 1929, ce que j'ai dit de l'ONU, ce que j'ai dit de la déclaration du pape, tout ça, vous le trouvez sur Internet sans grands efforts. Mais supposons un instant, supposons que j'ai tort et que ce soit un État. Dites donc, c'est un drôle d'État. Pardon, je trouve la bonne feuille. Excusez-moi. Voilà. Donc ça serait un chef, si c'était un État, le pape serait le chef de l'État. Et donc ce chef de l'État serait nommé par un collectif de grands électeurs qui comprendraient de très nombreux étrangers. C'est les cardinaux. Les cardinaux, ils ne sont pas tous citoyens du Vatican. Il y a des Argentins, il y a même un Français, puisque il n'y a pas très longtemps, l'archevêque de Marseille, Monseigneur Aveline, qui, je crois, est de nationalité française, a été nommé cardinal. C'est donc un électeur du pape. Imaginons un État dont un collectif composé pour partie de citoyens étrangers nommerait le chef d'État. Imaginons un instant. Et le plus intéressant, c'est que c'est le chef d'État précédent qui nommerait les électeurs du chef d'État suivant. Imaginez qu'en France, Macron nomme les électeurs du chef d'État qui serait à élire en 2027. Et que dans ce collectif, il y a un certain nombre de gens qui ne sont même pas citoyens français. C'est un État drôlement biscornu. C'est un fonctionnement qui peut être celui d'une religion. Je n'y vois pas d'inconvénient, puisque je ne me mêle pas de religion. Mais ça ne peut pas être l'élection d'un chef d'État. Alors ça, c'est la première des choses. L'autre point qui mérite d'être signalé, c'est qu'aucun sujet de cet État ne peut voter à une élection politique. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'élection municipale, il n'y a pas d'élection législative. Et comme on l'a dit, les élections présidentielles sont quelque peu bizarres. D'ailleurs, ce n'est pas un président, puisque la constitution de l'Église catholique est une constitution monarchique. Et si vous allez sur le site du Saint-Siège, vous verrez que c'est défini comme ça. C'est une monarchie élective, on a vu comment, absolue et de droit divin. Donc ça serait un État triplement déjà antidémocratique. Mais ça serait encore quadruplement antidémocratique, puisque non seulement les sujets ne peuvent pas voter, mais il n'y a pas de parlement. Les syndicats y sont interdits. Pour être fonctionnaire, il faut être obligatoirement catholique. Le divorce, l'IVG, la PMA sont interdits. Imaginons, par exemple, que la France, un pays où le divorce, l'IVG serait interdit. Tout le monde crierait à la dictature. Mais non, le représentant du Vatican est un saint homme. Je continue. L'homosexualité est officiellement un péché. Ensuite, une police étrangère intervient en cas de trouble, puisque en cas de trouble au Vatican, c'est la police italienne qui intervient. Si c'était un État, les Italiens seraient des étrangers au Vatican, puisqu'ils seraient ressortissants d'un autre État. Est-ce qu'on imagine un instant qu'en cas de trouble en France, ce soit la police de l'Allemagne ou de la Belgique qui intervienne pour régler les troubles à l'ordre public ? D'ailleurs, j'ai regardé un peu dans mes archives... cette définition de ce qui serait un État, et qui n'en est pas un, si c'était un État, ça reprendrait à peu près tous les critères que l'administration Bush avait définis pour bombarder l'Irak. Comme un État antidémocratique. Je ne demande pas aux Américains de bombarder le Vatican. Hein. Mais voilà, c'est juste pour dire la contradiction dans laquelle on veut nous enfermer. En plus, bizarrerie marseillaise, imagine-t-on un instant le maire d'une ville inviter en visite officielle le chef d'un autre État. Ça, c'est du domaine du national, c'est du domaine de la présidence de la République. On n'imagine pas un maire, je ne sais pas moi, inviter, par exemple, Poutine à Boulogne-Billancourt. Vous voyez ce que je veux dire? Personne n'imagine une chose pareille. Donc ce serait étonnant que le maire de Marseille puisse inviter un chef d'État étranger. En réalité, c'est bien le chef d'une religion. D'ailleurs, s'il fallait une démonstration, il est prévu que le pape dise la messe sur le stade Vélodrome. On ne voit pas qu'on inviterait un chef d'État d'un autre pays pour qu'il fasse un office religieux au stade Vélodrome. Voilà, j'en ai terminé.
Très bien, très bien. Ben maintenant, je propose un petit clin d'œil musical.
Oui. Alors, juste avant ce clin d'œil musical, hein, il y a une coïncidence quand même, c'est une curiosité. Henri vous a parlé de la constitution du pape en 1929. Eh bien, il se trouve que ça a été signé le 7 juin. Et on est le 7 juin. C'est une date anniversaire. Vous voyez comme quoi ça tombe bien. La prochaine chanson que vous allez entendre, en fait, c'est une chanson de Pierre Perret. Ça s'appelle « La vie du pape ». C'est un extrait de l'album « La femme grillagée » qui était sorti en 2010.
Est-ce qu'on peut être malheureux quand on fait pas ce qu'on veut? Je rêvais d'un petit boulot, la télé et au pieu. Au lieu de ça, tout le monde autour me dit ce que je dois faire. Et je m'enfonce tous les jours dans le chemin de l'enfer. Les meufs et les petits glandus aujourd'hui sont vêtus de jupettes à ras-le-bonbon, de jeans troués au cul. Quant aux Indiens du Pérou, les vénards sont à poil. Les filles montrent leur feu tout, les mecs leur os à moelle. Mais moi le pape, faut que je me sape. J'ai des harnais, c'est pas discret. Mitre et sandales, gilet pare-balles. J'suis tout en blanc, c'est salissant. Moi des matines, il me bassine. Mais sans latin et tout tatouin, faut que j'ai la pêche à l'hostie sèche. C'est rare ici qu'on file une prime. Ah si je pouvais foutre le camp, j'irais voir les minettes. Sous mes fenêtres Vatican passe de jolies nonnettes. Mais le service de comptage tous les soirs est formel. À l'heure du déshabillage, ils recomptent les pucelles. Les abbés vont entre mecs à des concerts de rap. Moi j'aimerais que mes évêques me lâchent un peu la grappe. Y'a jamais une seule nana dans nos soirées de potes. Je ne suis pas servi une fois d'une seule de mes capotes. Car pour le pape, y'a pas de soupape. Jamais de cajot dans mon pajot. Même la vilaine Marie-Madeleine, on dit que Jésus crachait pas dessus. Pas de joli môme pour me faire les chromes. Même Mardi Gras, je me la mets sous le bras. Pour une pétasse, je peux perdre ma place. Personne n'est là quand je grimpe au mât. Il m'amène dans des pays, y a des pauvres partout. Je ne supporte plus le riz ni les pousses de bambou. Je fais de la claustrophobie dans ma charrette blindée. Mais je vous raconte pas de fourmi quand j'ai envie de pisser. J'apparais sous les vivas quand je descends de l'avion. suis à genoux, je lève les bras et j'embrasse le goudron. Le président me félicite après mon petit sermon. Et les marchands d'eau bénite m'invitent à un gueuleton. Mais pour le pape, y a point d'agape. Je suis seul devant mon fromage blanc. Régime des primes, quant à leur film, tout leur cinoche est vraiment moche. Pendant que je mange, marquise des anges, il faut que j'écoute leur chant de scout. La vie sexuelle d'Emmanuel chez les bonnes sœurs, ça manque de beurre. Alors je zappe ma vie de pape, je deviens Brandon, DiCaprio. Soudain je plane chez les sultanes et je me promène dans mon harem. Là on se mélange, je change d'ange et de bénitier, j'oublie le métier. La 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 la, papa bala.
Oui, voilà. Donc, après ce sourire, justement, Claudette, il est question qu'à Marseille, donc, le pape nous fasse une grande, grande messe au stade de Vélodrome. Cela appelle à se poser la question du financement de cette venue papale.
Oui, merci Michel. Bon, alors écoutez, moi je vais vous parler donc de la venue du pape, des éventuels financements et donc de la laïcité. Alors donc, tout le monde a compris, le pape François vient à Marseille, et ce, le 23 septembre 2023. Il vient en fait clore des travaux du rassemblement méditerranéen, organisé par les évêques des villes de la Méditerranée, et dire une messe dont on sait à présent qu'elle aura lieu donc au stade Vélodrome. Alors je voudrais soulever un premier aspect concernant la visite du pape qui me semble important. Que les catholiques décident de se réunir, qu'ils décident de recevoir leur chef suprême, c'est leur droit. Nous ne rappellerons jamais assez que par la loi de séparation des cultes et de l'État et son article 1, la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans cette loi dans l'intérêt de l'ordre public. Tous les citoyens peuvent donc, sans crainte, s'adonner au culte de leur choix, qu'il soit catholique ou pas, ou à rien du tout. La venue du pape, comme invité des catholiques, la réunion des catholiques pour discuter de leur culte, est en l'espèce tout à fait licite. Un deuxième élément qui me semble important. Cet événement religieux pour les catholiques doit, à mon sens, rester ce qu'il est, un événement privé. Il existe un risque que par le soutien apporté à l'organisation de cet événement par les pouvoirs publics, notamment par la ville de Marseille, le caractère de cette manifestation privée ne devienne en quelque sorte une manifestation officielle. Contrairement à la déclaration récente de M. Payan, maire de la ville, ce n'est pas la ville de Marseille qui accueille le pape, ce sont les catholiques. Et Marseille, même si c'est le vœu de certains, n'est pas catholique, elle est républicaine et laïque. La liberté de conscience, inscrite dans l'article 1 de la loi de 1905, que l'État doit assurer à tous les citoyens, quelle que soit leur opinion philosophique et religieuse, peut-elle exister si les services publics, ses représentants, privilégient de quelque manière que ce soit, moralement ou physiquement, un culte ou plusieurs cultes? Peuvent-ils les hiérarchiser ou en assurer la promotion, sans discriminer les autres, sans créer des catégories de citoyens et sans créer des situations de rancœur. Le législateur, en 1905, a répondu à ces questions en ajoutant un article 2 à la loi de 1905. Je le cite, « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. » La suite, en conséquence, à partir du 1er janvier, donc, qui a suivi la promulgation de la présente loi, seront supprimés des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. pourront toutefois être inscrites au dit budget les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices et asiles et prisons. Les établissements publics du culte sont supprimés sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3. Alors cet article 2 est en fait le complément nécessaire du premier. Il établit que l'État doit à l'égard des cultes observer une stricte neutralité sans en privilégier aucun. Et logiquement, il ne peut donc les financer, ce qui constituerait de fait la marque d'une reconnaissance et pourrait faire contribuer les citoyens au travers de l'impôt qu'ils payent contre leurs propres convictions. Donc, il ne saurait y avoir de soutien ni financement public pour les événements catholiques qui vont se dérouler du 17 au 24 septembre à Marseille, et notamment pour la visite du pape, sans préjudice à la fois pour la démocratie et la laïcité. Pourtant, des déclarations, des implications dans l'organisation de cette cérémonie religieuse de divers représentants de l'État et de la mairie de Marseille nous font craindre que cette venue du pape ne se fasse pas sans entorse aux règles établissant la laïcité dans notre pays. Ces dernières années, on l'a vu, Emmanuel Macron n'a pas cessé d'inviter, à chaque fois qu'il allait voir le pape, de l'inviter à venir en France. Les visites au Vatican, tant du chef de l'État, de ses ministres ou d'élus locaux, parmi lesquels M. Darmanin ou M. Payan, se sont accélérées. Plusieurs maires du pays d'Aubagne récemment y ont accompagné le cardinal Aveline. On ne peut non plus passer sous silence cette déclaration faite il y a quelques semaines par le maire de la ville de Marseille, qui manque pour le moins de cette neutralité qu'on attend d'un premier magistrat. Je cite encore. « Le pape a un message d'humanité très fort. Il tient particulièrement à la Méditerranée. Il tient particulièrement à ce qu'on soit attentif aux plus fragiles. Et comme nous, il a envie de tendre la main à ceux qui n'ont pas grand-chose ou ceux qui n'ont rien, et je suis très fier de ça. » Déclaration réitérée il y a quelques jours sur son compte Twitter. C'est maintenant chose faite. Le pape François célébrera la messe au cœur du stade Vélodrome le samedi 23 septembre 2023. C'est un honneur pour notre ville d'accueillir le pape pour les rencontres méditerranéennes. Enfin, notons aussi son implication assez peu mesurée afin de permettre au pape d'assurer sa messe au stade Vélodrome, en organisant une réunion entre le ministère de l'Intérieur, celui des Sports, le diocèse de Marseille et l'organisateur de la Coupe du Monde de rugby, qui, ce dernier refusant la tenue de la messe dans le stade. Car il était inquiet des risques de dégradation de la pelouse et réclamait une surprime d'assurance. Que ceux qui souhaitent le financement du pape soient rassurés, de la venue du pape soient rassurés, un accord a été trouvé. Et donc, la messe aura lieu au stade Vélodrome. Dans ces conditions, il semble légitime de se poser plusieurs questions en relation avec le financement de ces événements. Le stade Vélodrome sera-t-il loué ou prêté? Selon nos informations, les billets d'entrée au stade Vélodrome seraient gratuits. Qui donc va payer? Le palais du Ferrou, où se tiendront les rencontres des évêques de la Méditerranée, qui paiera? L'implication, là encore, du maire de Marseille dans ces rencontres auxquelles il avait participé comme maire en 2022 à Florence et desquelles il avait ramené une charte dite de Florence qu'il avait signée avec les évêques, charte appelant les États à collaborer avec les religions pour l'établissement de différents points de leur politique, est assez inquiétant quant au respect de la loi de 1905 de séparation des cultes et de l'État. Notre position, comme celle des laïcs véritables, est claire, aucun argent public pour les cultes et donc aucun financement public ne doit être versé pour la visite du pape ni la rencontre de la Méditerranée. Le rôle de l'État, des pouvoirs publics est d'organiser les services publics, de construire et d'entretenir les écoles publiques, des hôpitaux, des routes, des logements, pas d'investir dans les prières. Et à Marseille, l'État, la mairie ont bien assez à faire avec les logements délabrés, les écoles en ruine et une misère particulièrement élevée. Marseille n'a pas besoin d'espérance, elle a besoin d'action sociale publique. Elle n'a pas besoin de prières, mais d'argent public pour rebâtir, reconstruire ses écoles délabrées, les logements sociaux, réparer les rues. Je vous remercie.
Eh bien, voilà. Donc, un change, j'allais dire, de circonstances. Michel.
Alors, la chanson que je vais vous passer maintenant, ça s'appelle « Il y a plein d'argent au Vatican hein, », comme l'a dit Michel, c'est de circonstances. Alors, c'est un groupe qui s'appelle JPPLL. C'est en définitive, c'est un groupe qui a été fait par les fondateurs du groupe Les Enfants Terribles, que certains ont dû connaître. Hein, et c'est une chanson qui est sortie en 1966.
Y a plein d'argent au Vatican, des rubis, des louis, des diamants. Y a plein d'argent au Vatican, mais ce n'est pas pour les enfants.
Saint-Pierre de Rome s'affole sous le poids des lingots. Faudrait des succursales ou bien faire des travaux. Si lourde est la cassette dont les papes sont coiffés, que lorsqu'ils baissent la tête, c'est pas d'humilité.
Y a plein d'argent. Des rubis, des louis, des diamants. Y a plein d'argent au Vatican, mais ce n'est pas pour les enfants.
Y a tant d'or dans les cuves qu'il passe par-dessus bord. C'est pour ça que le Vésuve vomit des lingots d'or. Et même la tour de Pise est prête à s'écrouler, ainsi que les églises, elle est pleine à craquer.
Y a plein d'argent au Vatican, des rubis, des louis, des diamants. Y a plein d'argent au Vatican, mais ça n'est pas pour les enfants.
Ils pourraient toujours faire un peu de vie dans la plante. Les camions de l'abbé Pierre aux caves du Vatican. Mais au jugement dernier, Dieu ne trouvera en coulisse que des toiles d'araignée. Tout sera planqué en Suisse.
Y a plein d'argent au Vatican, des rubis, des louis, des diamants. Y a plein d'argent au Vatican, mais ce n'est pas pour les enfants.
Doudoum, 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 doudoum.
Top, top.
Doudoum, 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 doudoum.
Top, top.
Doudoum, 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 doudoum.
Doudoum, 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 doudoum.
Mais au jugement dernier, Dieu ne pourra en coulisses que les toiles d'araignée.
Tout sera planqué en Suisse.
Y a plein d'argent au Vatican.
Ce n'est pas pour les enfants.
Oui, voilà. Donc, je souhaite à tout le monde d'avoir de l'argent, d'ailleurs. Revenons à la libre pensée. Notre ami Jean-Marc Schiappa va nous faire le plaisir de venir nous présenter son livre qu'il vient d'écrire sur Gracchus Babeuf, qui est considéré jusqu'à présent, enfin par beaucoup, comme un précurseur du communisme. Mais présentons d'abord Jean-Marc. Âgé de 67 ans, il est diplômé de l'École des hautes études des sciences sociales. Il a soutenu une thèse à Paris, hein, Panthéon-Sorbonne, en 1992, sous la direction de Michel Vauvel, sur les babouvistes. Il s'est spécialisé dans l'étude de Gracchus Babeuf et de la conjuration des égaux. Il est le responsable des études babouvistes, organe de l'association des amis de Gracchus Babeuf, et publie des articles à caractère historique dans Communisme ou Les annales historiques de la Révolution française. Il est président de l'Institut de recherche et d'études de la libre pensée, qui est lié à la Fédération nationale de la libre-pensée. Il collabore donc aux publications de la libre-pensée, dont La raison et L'idée libre, dont d'ailleurs je vous dirai quelques mots dans quelques instants. Quand Emmanuel Macron a supprimé l'Observatoire de la laïcité, Il s'est associé à deux membres éminents de celui-ci, Jean-Louis Bianco et Nicolas Cadenne, pour créer la Vigie de la laïcité. Il est par ailleurs formateur à l'Institut La Boétie. Parmi les ouvrages qu'il a publiés, citons Gracchus Babeuf, Avec les égaux, Paris, en 1991. Les babouvistes, aspects de l'implantation de la conjuration babouviste. Thèse de doctorat en histoire remaniée par les amis de Gracchus Babeuf en 2003. Gracchus Babeuf pour le bonheur commun, aux éditions Spartacus en 2015. Mais venons à Gracchus Babeuf. Celui-ci, né dans le nord de la France, à Saint-Quentin, le 23 novembre 1760, il a donc 29 ans quand éclate la Révolution française, avec pour père un employé dans les fermes royales. À 12 ans, il travaille au canal de Picardie comme terrassier. Mais à 17 ans, il se fait embaucher chez un notaire spécialiste du droit féodal dans la ville de Flixecourt, près d'Amiens. Ensuite, à 21 ans, il s'installe comme géomètre dans une ville qui est toujours près d'Amiens, qui s'appelle Roy. Et je vais faire une petite remarque que je viens de lire. Il dit, alors il a été aussi d'ailleurs, c'est assez intéressant, commissaire à terrier, c'est-à-dire expert dans les règles et usages internes aux diverses seigneuries. Ce qui lui a fait dire, ce fut dans la poussière des archives seigneuriales que je découvris les mystères des usurpations de la caste noble. C'est dire quand même qu'il avait une connaissance des profondes inégalités qui régnaient avant la Révolution française. Il est devenu adepte de Jean-Jacques Rousseau et il écrivit pour l'égalité des hommes. En 1788, il commence la rédaction du cadastre perpétuel. Dans cette brochure, publiée en 1790 à Paris, il propose une évolution de la législation pour collectiviser les terres, tout en gardant leur exploitation individuelle. Il est aussi partisan de l'abolition de l'esclavage. Il a contribué au cahier de doléances de Roy, etc. Notons qu'il a rompu avec le catholicisme vers 1790. Il écrira d'ailleurs en 1793 « Le christianisme et la liberté sont incompatibles ». Mais ce sera à Jean-Marc de nous relater son activité dans le chaudron révolutionnaire et ce que fut cette conjuration des égaux, dont le nom interpelle. Ce sera le jeudi 29 juin à 18h à la Cité des Associations. Vous êtes tous cordialement invités à venir. Donc je vous propose maintenant de dire quelques mots de la revue mensuelle de la Libre Pensée, La Raison, qui est arrivée dans les boîtes aux lettres ce matin. Il y a un dossier central sur la question de l'objection de conscience qu'on a relié avec ce que nous a exposé Michel tout à l'heure, le SNU. Et puis on trouvera aussi des indications, par exemple, intéressantes sur une déclaration internationale pour la séparation des églises, religions et des États, pour l'abrogation des concordats, pour la fin des privilèges accordés aux religions. Vous aurez aussi un petit article sur Viollet-le-Duc, qui n'est pas inintéressant. Voilà, je m'arrêterai là. Vous pourrez trouver tout cela sur le site de la Libre Pensée, www.lp-13.org. Merci et à bientôt.
Pendant le générique de fin, ce que je tiens à vous signaler, par contre, c'est que dans notre calendrier, il y aura aussi la fête de la libre pensée le 2 juillet. Voilà, c'est pour aviser tous nos camarades qui souhaitent participer, même s'ils ne connaissent pas la libre pensée, ce sera une occasion festive de le faire.
Le temps des cerises et guerre signale et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux. Le merle mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour robes tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les bêtes.